La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours en direct de cette nouvelle édition de la REF 2026, ici au stade Roland-Garros, où nous recevons depuis hier avec Sylvain Lévy-Valenzy de nombreux invités. Et aujourd'hui, nous recevons Philippe Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Sceaux. Les maires sont en première ligne sur le logement, l'adaptation climatique, les mobilités, les services publics, mais aussi les finances locales, sous tension, des injonctions parfois contradictoire, pour pas dire moins. La question est simple. A-t-on encore les moyens d'aménager la ville? On vous la posera dans un instant. En tout cas, vous êtes maire, vous, depuis de nombreuses années. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de maire, tout simplement, est devenu plus difficile qu'il y a 20 ans?
Oui, c'est incontestable. Moi, je suis maire depuis 25 ans et je suis élu local depuis 49 ans. Juste avant la décentralisation. Oui, j'ai été élu en 1977 pour la première fois. Mais On va rester sur la période maire. Hein. Donc,
on élisait les mineurs à l'époque.
J'étais à peine majeur. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, qu'on compare par rapport à il y a une vingtaine d'années, la difficulté, elle est multiple. Elle s'est multipliée dans tous les domaines. Bien sûr, il y a le domaine réglementaire, il y a le domaine des injonctions contradictoires. Tout le monde connaît, tout le monde a plein d'exemples en tête sur ces sujets-là. Ça, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que les maires sont à la fois de plus en plus sollicités sur toute une série de sujets. Il y a 25 ans, on ne s'occupait pas des commerces, on ne s'occupait pas de la santé, on s'occupait un tout petit peu de la sécurité. Et aujourd'hui, dans l'ordre de priorité que donnent les habitants à l'action municipale, ça s'est vu aux municipales, aux élections municipales, il y a la santé, la sécurité, voire le centre-ville.
Exact.
Voilà. Donc, tout ce qui concerne le social, l'accompagnement social,
et logement,
les crèches, etc. Oui, oui. Et le logement. Mais même le logement, on s'en occupait un peu, mais finalement pas tant que ça. On avait des structures, on avait des offices municipaux, on avait des...
Vous étiez en commission d'attribution, etc. vous aviez la main sur...
On avait certainement plus de marge de manœuvre, d'ailleurs, de ce point de vue-là.
Mais oui.
Et donc, en fait, aujourd'hui, le seul interlocuteur qui reste pour la plupart des gens, c'est en effet le maire et son équipe. Et moi, je voudrais simplement saluer l'extraordinaire engagement de tous les élus locaux, mais aussi des fonctionnaires territoriaux, et notamment communaux. Vous savez, une administration municipale, c'est très différent d'une autre administration. C'est une administration qui est extrêmement réactive. Hein, il se passe quelque chose, une catastrophe, un arbre qui tombe, etc.
C'est vous qu'on appelle.
Ça se crée dans la... Oui, ça se gère dans la nuit. Hein. Et donc, on a des agents municipaux, je le dis, mal payés, mais extrêmement attachés à leur commune et au service public, finalement, de proximité. Donc, c'est plus compliqué d'être maire. Il y a aussi une attente de nos concitoyens qui est plus forte sur toute une série de sujets. Et puis, des efforts qu'ils acceptent de faire, moins importants. Donc, c'est vraiment un métier, parce que c'est quand même devenu un métier. C'est un métier qui est devenu assez difficile, mais c'est un métier passionnant.
Philippe Laurent, vous pensez que c'est vraiment un métier? Vraiment?
Ah oui, c'est devenu un métier.
Aujourd'hui, quelqu'un qui choisit d'entrer dans la vie, dans la vie politique, à l'échelle locale, il doit en faire son métier?
Il ne doit pas forcément en faire son métier.
Non, mais
il peut avoir un autre métier en parallèle. C'est plus un mandat qu'on exerce de manière un peu...
Philippe Laurent, je vais préciser ma question.
Ouais.
Parce qu'elle est très importante. Et on peut ne pas être d'accord, encore une fois. C'est même une preuve de vitalité démocratique. Aujourd'hui, on a besoin de candidats qui viennent de la société civile, qui s'investissent en politique, qui s'investissent à l'échelle locale. Je vais vous donner un chiffre. Il y a plus de 500 000 élus locaux à l'échelle des bourgs, des centres-bourgs, des villages, qui ne touchent pas d'indemnité mensuelle. Qui sont élus locaux,
oui,
bénévoles. Sans eux...
Oui, bien sûr,
sans eux, les communes ne fonctionnent pas. On est d'accord. Donc, il y a en France, qui a inventé cette idée même de la commune, l'idée de l'implication dans le... Comment on fait pour attirer des talents de la société civile? Alors, je sais qu'on peut conserver son job, qu'on peut faire pas mal de choses, exactement. Pour éviter, si vous voyez ce que je veux dire, qu'on ait toujours, c'est pas une provocation, mais toujours les mêmes, qui viennent des corps, ou des grands corps, ou de la fonction publique. J'ai rien contre la fonction publique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans l'idée d'être un élu local, une configuration un peu kaléidoscopique d'une société qui s'y reconnaît et qui a envie d'y aller. Je vais vous citer un exemple d'un élu qui s'est investi dans son territoire formidablement, dans un territoire sinistré. C'est la ville de Saint-Dizier avec Quentin Brière, qui est un type, qui est un avocat et un homme d'entreprise brillant, qui aurait pu choisir d'avoir des revenus nettement supérieurs et qui a choisi de s'investir dans une ville qui en avait bien besoin. Et les résultats commencent aujourd'hui à bien s'en faire sentir.
Oui, mais il s'investit comment ? De manière professionnelle. Il fait les choses professionnellement.
C'est vrai.
C'est plus une question d'amateur. C'est pas le châtelain du village qui devient maire parce qu'il est reconnu par les habitants.
Comme, très juste, voilà. Absolument. Très
donc
juste,
en réalité, et je dis ça parce que, vous voyez, j'ai le souvenir du président de la République qui a dit un jour, vous devez être fier d'être des amateurs. Il a dit ça aux députés. Vous devez être fier d'être des amateurs. Vous ne vous souvenez pas de ça ?
Le président Macron.
Actuel. Il a dit ça. Il a dit ça il y a quelques années. Au début de son premier mandat.
Je ne m'en souviens pas, mais c'est bien d'être des amateurs.
Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a profondément heurté les élus, les maires.
C'est logique.
Puisque nous ne sommes pas des amateurs. Nous sommes engagés, des citoyens engagés, mais nous faisons le job de manière professionnelle.
Je comprends.
De manière professionnelle, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, un minimum de formation. Cette formation, vous ne l'avez pas dans les écoles.
Oui, mais vous l'avez sur le terrain et vous l'avez dans le cadre de formation accompagnante.
Oui, et puis vous l'avez sur le terrain. Et moi, j'ai été élu maire en 2001, après avoir fait déjà 4 mandats de conseiller municipal et d'adjoint au maire. Donc la formation, elle se fait comme ça.
Mais Philippe,
ça, c'est vraiment très important.
Alors, Philippe, moi, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Vous avez nuancé le propos par rapport à l'idée
métier.
Du métier. Ouais, absolument. Merci de le faire. Non, mais c'est important, parce que tout a du sens, et surtout en ce moment, vous le savez. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous êtes sur... Alors, on va pas refaire le passé, mais de toute façon, notre président de la République nous aura rien épargné. Hein, absolument rien épargné. Dans une France aujourd'hui qui se divise et qui est enfermée entre deux polarités. C'est comme si, finalement, on avait le choix entre la peste et le choléra, entre deux polarisations, comme si, finalement, toutes les strates politiques qui font bouger les territoires n'existaient plus. Le mouvement de David Lisnard, Édouard Philippe, d'autres, etc., qui ont exercé, ou pas, d'ailleurs, des fonctions aux affaires. C'est insupportable de voir ça.
Bien sûr.
Comment, vous qui êtes maire, au quotidien, le samedi, sur les marchés, je sais que vous êtes en plus un homme très proche de vos administrés. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous êtes à quoi ? Sixième mandat aujourd'hui ?
Cinquième mandat de maire.
Voilà, cinquième mandat. Donc, j'allais dire que votre bilan il est sans appel, il faut être très clair. Sinon, vous n'auriez jamais été réélu. Hein. Donc voilà, on va calmer tout le monde. Et le juge de paix, il est là. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, justement ? Comment vous réagissez, vous ?
D'abord, quand je suis dans ma ville, dans la rue, dans le centre-ville, où on rencontre plein de monde... On parle des choses quotidiennes, du quotidien, de tel ou tel sujet, parfois des préoccupations individuelles, parfois des préoccupations plus collectives. Et moi, j'essaie toujours d'amener la population par différentes approches, différentes démarches. J'essaie toujours de les appeler dans des démarches collectives, faire en sorte qu'ils puissent s'engager, faire appel à leur capacité de bénévolat. Dans même un bénévolat, même limité, quelques heures par semaine. Mais j'essaye d'engager au maximum la population dans toute une série d'actions, parce qu'il y a énormément à faire. C'est pas seulement à d'être élu. Hein. Il y a énormément à faire dans les associations, il y a énormément à faire sur le terrain, dans l'animation de la ville, les dîners de rue, les fêtes de quartier, etc. Et moi, j'ai toujours basé une partie de mon action politique sur ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un plus. Voilà. Donc on a cette... Et à partir de là, d'ailleurs, certaines vocations peuvent naître aussi, hein, pour éventuellement donc rejoindre une liste municipale la fois d'après, qu'elle soit majoritaire ou pas majoritaire, vous voyez. Et donc, quand je rencontre mes concitoyens, finalement, j'essaie d'éviter les sujets à caractère national. Parce que je sais que c'est ce sujet-là, moi, j'ai pas de réponse.
Ils vous interpellent pas ?
Si, mais on dit, bah oui, j'ai pas de réponse, moi. Moi, tout seul, comme ça, j'ai pas de réponse. J'ai dit, bah, c'est vous qui avez la réponse. On peut en discuter.
Mais vous en échangez,
on peut échanger.
Vous avez des positions, vous avez des opinions, vous les exprimez, me semble-t-il, non ?
Oui, 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 j'ai des opinions et j'ai des trucs. Essentiellement, d'ailleurs, dans le domaine de l'organisation des pouvoirs publics, dans le domaine du service public, dans le domaine dans les domaines d'action qui sont ceux, généralement, de la commune. Voilà, sur les questions d'éducation, les questions de logement, oui, bien sûr.
Mais si je vous pose la question de cette élection présidentielle, dont tous les analystes politiques, les politologues, disent unanimement la même chose que nous avons. C'est la seule élection, la prochaine, le 27, qui est la plus singulière de la Ve République et qui pourrait même, certains, un peu pessimiste peut-être également, de dire que ça pourrait même être une élection de nature à bousculer, voire à faire trembler les fondements de la Ve République. Oui. Vous pensez qu'on fait un peu du bashing ou que c'est un excès de pessimisme ?
Alors, puisque nous sommes ensemble et que j'ai envie de vous faire confiance, je vais vous donner le fond de ma pensée.
Vous pouvez.
Je vais vous donner le fond de ma pensée.
Merci.
J'appartiens à une famille politique qui n'a jamais été fanat des institutions de la Ve République, surtout les institutions revues en 62. Et aussi les institutions revues, d'ailleurs, avec le quinquennat, etc. Ma famille politique, c'est une famille... Qui fait le choix du parlementarisme. Et donc, cette élection présidentielle, pour moi...
Parlementariste versus 4e République.
Ou 3e.
Ou 3e. Oui, 3e. Qui a été d'ailleurs...
Excusez-moi, j'allais presque dire version République.
Non, mais oui. Qui a été d'ailleurs, il faut le rappeler, la plus longue période...
Bien sûr.
De République. Il faut rappeler que la Troisième République, c'est 1671, la défaite de Sedan, naissance de la Troisième République, jusqu'à son extinction, malheureusement, avec le régime de Vichy.
Aujourd'hui, si vous voulez, baser l'avenir d'un pays de 60 millions d'habitants, donc 6e ou 7e puissance mondiale, etc., sur l'élection d'une personne, c'est quelque chose que je n'arrive même plus à comprendre. Je n'arrive pas à concevoir ça. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la personne qui sera élue, les vrais sujets qui concerne l'avenir de notre pays, l'avenir de la société française, etc., ils ne sont pas traités, forcément. Ce sont des sujets qui concernent tout le monde. La question des retraites, la question des déficits, toutes ces questions-là, la question de la défense, la question de la place de la France en Europe par rapport à ce qu'est en train de faire l'Allemagne, des choses comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. En tout cas, ce sont des vraies questions.
C'est votre analyse.
C'est mon analyse. Je pense que si on n'embarque pas la population et les gens... dans ces réflexions, on n'y arrive pas. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que les Françaises et les Français, parce que les institutions sont comme ça, ils vont assister à un spectacle avec plusieurs personnes qui vont débattre, etc., puis avec le grand débat d'entre deux tours. Et après, ils vont voter. Et celui ou celle qui sera élu, on lui dira « Maintenant, tu as été élu, tu te démerdes. » Ça, ça ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Donc, donc, le système, il est comme ça. Et malheureusement, il fallait le changer. Et moi, je pensais d'ailleurs...
Vous êtes favorable à un changement de constitution et à une 6e République.
Moi, je pense que c'est une clé de l'avenir du pays.
Voilà. Et on se retrouverait derrière un programme plutôt que derrière un homme.
Voilà. Derrière un programme ou derrière des équipes. Parce que vous voyez, tout est lié. Il y a l'élection présidentielle aux suffrages universels. Il y a ensuite... l'élection législative avec le suffrage majoritaire à deux tours. Et les deux font partie d'une même logique qui devient mortifère.
Le suffrage universel pour le président de la République, vous revisiteriez cette idée également.
Oui. Ou alors je diminue ou je limite fortement les compétences du président de la République et je ne permets qu'un mandat.
Donc vous faites partie de cette école de pensée intéressante, très intéressante.
Oui, mais personne n'ose en parler.
Qui a dit... Parce que personne, malheureusement, ou très peu, ont une culture de l'histoire. Il faut quand même se rappeler que quand Michel Debré avait dans sa mallette le projet de constitution en 1957...
58, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel.
Absolument. Hein. Quand Michel Debré a ce projet de constitution déjà écrit, bien évidemment, et qu'on a la chute du gouvernement Psilnin, il faut quand même se rappeler que le rappel du général de Gaulle arrive dans un moment où on est au bord d'une guerre civile. Et que, effectivement, le parlementarisme, entre guillemets, là, pour le coup, d'un point de vue négatif, faisait s'écrouler les gouvernements successifs, dont le plus âgé durait à peu près 6 à 9 mois. Disons une autre chose. Toutes les tendances politiques, rappelez-vous à l'époque, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, et notamment François Mitterrand le premier, avait écrit un livre qui s'appelait « Le coup d'État permanent ».
Voilà.
Dans lequel, alors c'est intéressant, c'est même presque de l'humour, c'est l'humour à la Mitterrand, qu'il ait écrit un truc qui s'appelle « Le coup d'État permanent » pour finalement s'installer dans une fonction quasi monarchique. Parce que ce que vous dites...
Parce qu'une fois qu'on y est, après, on ne veut pas changer.
Non, mais ce que vous dites, Philippe Laurent, c'est que finalement, vous souhaitez... que cette idée presque monarchique de la présidence de la République, tout pouvoir ou omniprésent, soit revisitée avec un équilibre des pouvoirs plus débattu.
C'est pas que je le souhaite.
Mais je me fais l'avocat du diable.
Je pense que c'est nécessaire pour l'avenir du pays.
Je me fais l'avocat du diable. Voilà. Est-ce que le parlementarisme est une entrave à l'action ?
Pas du tout. D'ailleurs, vous parliez de la 4e République. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire.
Mais moi, ça m'intéresse énormément.
Voilà, la 4ème République,
vous êtes l'un des rares élus à le dire.
Oui, parce que très peu de gens, comme vous dites, s'intéressent un peu à l'histoire, et notamment à l'histoire contemporaine. La 4ème République a reconstruit le pays, avec l'aide des Américains. Mais elle a reconstruit le pays. Elle a été... En fait, la 4ème République a été détruite par la question de la décolonisation.
C'est très juste.
Oui, c'est tout.
Très juste.
Mais s'il n'y avait pas eu la décolonisation, à mon avis, ça aurait fonctionné.
Et la 5ème, il faut quand même lui reconnaître quelques vertus, avec le général de Gaulle. Il faut quand même
oui,
pas tout oublier.
D'accord, mais de Gaulle, ce n'est pas toute la République. C'était un moment de la République.
Ce que je veux dire, oui, mais
important.
De Gaulle est le co-scripteur, si je peux m'exprimer ainsi, de cette 5ème,
oui,
qui a donné une certaine stabilité, hein, quand même. Parce que tout le monde parle de la 5ème, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy.
Oui, mais la stabilité.
La stabilité parlementaire,
elle était liée au fait qu'il y avait deux camps. Il y avait la gauche et la droite.
Oui,
bah à partir du moment où il y a un troisième camp, voire un quatrième camp qui arrive, c'est-à-dire l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche modérée, la droite modérée, à partir de là, c'est foutu. Et c'est pour ça que je vous parlais du scrutin majoritaire. Je pense que le scrutin majoritaire est un scrutin inadapté à la structuration maintenant politique et partisane du pays. C'est comme ça. Cette structuration, elle s'est faite. Okay. Voilà.
Donc, revisiter les modes de scrutin, c'est donner la parole à tout le monde.
Oui, parce que quand vous faites le scrutin majoritaire, vous êtes obligé de passer les alliances avant le scrutin pour arriver au deuxième tour. Quand vous faites un scrutin proportionnel, vous votez pour la liste qui correspond le mieux à vos idées. Et ensuite, ceux qui sont élus discutent et négocient un programme. C'est ce qui se passe en Allemagne.
Ingouvernable parfois, mais bon.
Non, pas plus que maintenant.
Oui.
Ah non, attendez. Parce qu'aujourd'hui, on a les inconvénients de la 4ème et les inconvénients de la 5ème en même temps. On a tous les inconvénients. Donc le truc ne marche pas.
Oui.
Non, mais franchement, attendez, on voit bien que ça ne marche pas. Regardez, c'est pas l'inaudit sur les questions de budget. C'est quand même incroyable.
Pour vous, finalement, le salut viendra de là, vous, en tant que comme politique.
Il y a pas
que... Non, mais c'est un souhait.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des efforts importants à faire en matière de lutte contre le déficit, en matière de retraite, en matière de travail supplémentaire, parce que malheureusement, on ne travaille pas assez, globalement. Enfin, les Français ne travaillent pas assez, c'est comme ça. C'est pas un jugement, c'est juste un constat. Voilà. Et donc, voilà.
J'adore.
C'est bien.
Merci,
c'est
bien. Philippe, d'avoir gentiment répondu à nos questions.
Je vous en prie, c'était décontracté, c'était sympa.
Je parle
assez rarement comme ça, parce que je n'ai pas toujours l'occasion de m'exprimer aussi librement.
Décontracté, oui. Je disais tout à l'heure, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de sujets avec vous, mais c'est extrêmement intéressant de dire que la vitalité démocratique, ce n'est pas de brosser les gens dans le sens du poil, c'est aussi de confronter les idées à une seule condition, qu'il y ait à la base... une documentation, un étayement des idées et de ne pas manipuler des idées sans contenu, ce qui malheureusement est trop souvent le cas. Vous avez dit une chose et je partage complètement votre point de vue. Cette absence, cette inculture de l'histoire nous emmène droit dans le mur, vous voyez. Et on répète aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète le plus, je vous le dis en tant que journaliste et d'observateur de la vie publique, c'est de voir se reproduire des schémas nauséabonds, j'ose le dire, nauséabonds, par justement cette inculture qui a été accumulée. Et ce n'est pas de la faute de ceux qui en sont les victimes, croyez-moi. C'est la faute aussi des politiques qui ont bâti cette arborescence. Donc je partage cette idée finalement de renverser la table et de faire un reset complet. Je me permettrai, si vous voulez bien, Philippe Laurent, de vous réinviter sur un débat plus long, justement, pour confronter nos idées, parce que je trouve que ça manque dans le débat public. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?
Eh bien, tout à fait.
Merci à vous.
Très volontiers. Merci.
Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité. Et on se retrouve tout à l'heure, en tout début d'après-midi, pour continuer à vous faire vivre cette édition 2026 de la REF. À tout à l'heure.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.